Philippiens chapitre 2, versets 9 à 16. Philippiens 2, 9 à 16. Vivez-vous du côté de la victoire? C'est la question ce matin. Vivez-vous du côté de la victoire? Philippiens 2, 9 à 16. La semaine dernière, nous avons vu Philippiens 2, 4 à 8, 5 à 8. L'œuvre de Jésus-Christ, l'humiliation volontaire de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Une mort atroce, volontaire, pour vous et moi. Quel prix payé. Et j'espère que le prix ne sera pas payé en vain pour ce qui concerne chacun. Jésus nous dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit le chemin qui mène à la vie. Peu de gens vont en fin de compte faire du paiement de Christ efficace au sens de que ça a porté fruit. Jésus-Christ a été content de le payer, même si peu l'acceptent, mais il s'est déjà payé. Acceptez-le pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Mais voilà, maintenant on va parler de l'exaltation de Jésus-Christ, Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Jésus-Christ, le jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. On va prier. Père éternel, merci pour ta parole. Seigneur Dieu, la Bible, c'est ta parole. Aide-moi de bien communiquer droitement le sens de ta parole. Seigneur Dieu, on te prie que les cœurs puissent être attentifs et être réceptifs, Seigneur Dieu, et examiner et voir si tout ce que je peux dire est conforme à ta parole, on te prie. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, l'élévation de Jésus-Christ. Premièrement, la seigneurie de Christ. La victoire est déjà gagnée. La fin est déjà déterminée. Ce n'est qu'une question de formalité. Je me rappelle, il y a quelques années, au Coupe du Monde de 2022, puis c'était... La Coupe du Monde était pendant une des réunions. On n'avait bien sûr pas sauté la réunion pour voir le match. Hein. Le match, si on pouvait le voir, bon, c'est bien, mais ce n'était pas une priorité du tout. Mais là, on était actuellement en voyage et on était dans une église pour une conférence missionnaire, des réunions missionnaires. Et là où on restait, le monsieur, il avait possibilité d'enregistrer pendant son absence, puis ensuite de regarder plus tard. Alors justement, il a enregistré. Et ensemble, on s'est dit, on ne veut pas s'informer des résultats, on va le regarder comme si c'était en réalité. Hein. Fait que moi et lui, on allait le regarder après, plus tard, cette soirée-là, et on n'allait pas s'informer du résultat, on allait pouvoir le voir comme si c'était en direct. Sauf que ma femme avait entendu parler du résultat. Alors elle riait un peu, elle savait le résultat. Et elle jouait un peu avec ça pour me taquiner. Puis, oh, je sais ce qui s'est passé, tout ça. Oh, mais vous, regardez, vous ne savez pas ce qui se passe. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, hein, peut-être les amateurs de foot qui se rappellent un peu plus, mais le final de la Coupe du Monde, entre l'Argentine et l'autre pays, je ne me rappelle plus, mais c'était très intense parce qu'il est arrivé à la fin du temps réglementaire, c'était nul, c'était C'est contre la France. Puis ensuite, les prolongations, encore là, c'était toujours égal à la fin des prolongations. Et là, ça allait en tir de pénalité. Et là, là c'était très intense, hein, parce que c'était toujours juste à la fin que quelque chose a rattrapé. En temps réglementaire, c'était juste avant que ça finisse que ça a été rattrapé, puis en temps de prolongation aussi. Alors, ce que j'ai trouvé drôle ces journées-là, c'est que là, ça s'en allait en tir de pénalité. Et je ne me rappelle même plus l'équipe qui a gagné. Voyez-vous, c'était pas vraiment en soi le sport et l'équipe. Et je ne me rappelle même plus. C'était qui se rappelle de cela?
L'Argentine.
L'Argentine a gagné. Et là, quand on a... Oui, je pense que oui, parce que leur joueur vedette enfin a pu toucher au plus gros, parce qu'il n'avait pas encore pu gagner. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais enfin, c'est vraiment pas les choses importantes. Mais la question, c'est l'illustration qu'on en tire. Vous allez voir, on va en arriver à ce que ça illustre quelque chose. Mais là, ma femme était tellement surprise. Il y a eu un victorieux. Je pensais que c'était 3-3, que c'était match nul. Et là, c'est moi qui ai eu le grand dernier rire, parce qu'en fin de compte, elle savait pas que quand c'était indiqué le résultat 3-3, puis ensuite, parce que c'est match nul, mais ensuite, ils vont indiquer qui a gagné au tir au but. Alors, elle a eu toute la surprise de sa vie. Elle ne savait pas la fin encore. C'est moi qui l'ai appris avant elle. Alors, en tout cas, bon. Mais le point pour dire ceci, nous on le regardait comme si c'était, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va... C'est déjà fini, n'est-ce pas? C'était déjà fini. Est-ce que ça aurait changé? Allez les verts, allez les bleus, allez les je sais pas qui. Ça n'aurait rien changé du tout. Bon, Jésus a déjà gagné. Mais là, peut-être il y en a qui sont sur le bord de leur chaise qui se demandent là, comment est-ce que ça va se passer à la fin. Est-ce que c'est certain qu'il va réussir à vraiment malmener les plans de Dieu, ou est-ce que c'est Jésus qui va avoir le dernier mot? Pourquoi se tenir au bout de sa chaise pour se demander qu'est-ce qui se passe? C'est déjà fait, c'est déjà prédéterminé. Jésus a vaincu, il a payé la dette. Il a vaincu Satan sur la croix, il a écrasé la tête, il est ressuscité, il a vaincu, il est déjà victorieux, c'est déjà certain. Il faut l'accepter pour que ça en vaille la peine. Eh bien, durant la Deuxième Guerre mondiale, justement, dans le Pacifique, vous savez, les Japonais avaient envoyé beaucoup de régions, avaient envoyé beaucoup d'îles. Et parfois, les Alliés, quand ils ont repris des îles, tout ça, ils commençaient à faire reculer le Japon pour la liberté, etc., pour délivrer le peuple de l'oppression et de la mort, parce que il y avait beaucoup de tueries et beaucoup de viols. Les Japonais, quand ils rentraient quelque part, c'était vraiment dangereux, etc. Donc, c'était bien que les Alliés se sont opposés à cette tyrannie. Eh bien, souvent, parfois, ils n'allaient pas reprendre toutes les îles. Parfois, les Japonais avaient certaines îles, et ils se sont dit, ils ne vont rien pouvoir faire, ceux qui sont tenus en arrière, puis ils sont à l'intérieur des îles, le bord, on va laisser passer, on va continuer à avancer contre Tokyo pour avoir la victoire finale. Alors, il y avait des poches de soldats japonais qui étaient derrière les lignes sur ces îles-là et qui se maintenaient en vie avec simplement ce qu'il y avait sur les îles, qui se faisaient plus approvisionner par leur armée, etc. Et ils se cachaient un peu dans le fin fond des forêts tropicales sur ces îles-là. Et il y en avait pour qui ils n'ont pas entendu la nouvelle de la défaite du Japon. Et il y a un cas justement que ça a duré des décennies justement, où ce qu'il y avait ces Japonais-là, et ils continuaient à se battre. La fin de la guerre était déjà finie depuis longtemps. Le Japon s'était rendu sans condition, en fin de compte, Et la victoire était gagnée. Et bien sûr, les Alliés, quand ils ont pris le Japon et l'Allemagne, ce n'était pas dans le but de conquérir. C'était plutôt de se défendre et d'arrêter l'oppression. Alors, le Japon était reconstruit, l'Allemagne était reconstruite. C'est la liberté de vote, tout ça. Et donc, le Japon, il commençait à bien faire, là, maintenant. Il se reconstruisait, tout ça. Pendant ce temps, il y avait toujours des soldats japonais qui ne s'étaient pas rendus. Pourtant, la victoire était déjà gagnée. Et il y en a qui sont morts comme ça, il y en a qui, sans s'être rendus et sans connaître la victoire, sans connaître la reconstruction, sans connaître cette liberté, pour rien. Pourquoi est-ce qu'ils ont continué à se battre? Il n'y avait plus de cause. Plus de cause. Et là, c'est la même chose. Jésus-Christ est Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé, c'est fait accompli. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Savez-vous que chacun ici un jour, vous allez vous agenouiller devant Jésus-Christ et vous allez de votre langue confesser sa Seigneurie. Mais je vous en conjure, n'attendez pas que cela vous soit, que cela va se faire au jour du jugement. Vous avez l'occasion de le faire maintenant volontairement et pour en accepter les bénéfices. Jésus-Christ est Seigneur, sa Seigneurie est finale. Mais il est important de l'accepter volontairement et de le faire votre Seigneur aujourd'hui. Il avertit qu'il faut l'accepter, baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, comme il dit psaume 2. Dieu haït vos péchés. Dieu haït mes péchés. Dieu a payé pour tous mes péchés. Il a payé pour tous vos péchés. Il haït le mal. Il est bon. Il haït le mal. À quel point il aime le bien? À quel point il haït le mal. Et il avertit. Psaume 2, verset 12. « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Il est encore temps de connaître le bonheur, de vous confier en lui. Mais un jour, il sera trop tard. N'attendez pas. » Et non seulement il sera trop tard, mais ça aurait été tellement stupide parce que c'était déjà fait accompli. C'était déjà certain. Acceptez-le pendant qu'il en est temps. Venez à lui pendant que vous pouvez encore être heureux de vous confier en lui. Un jour, tout le monde va reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une très petite minorité qui accepte sa Seigneurie réellement. Oh, il y a beaucoup qui font avec les lèvres. Hein? Oui, Seigneur. Hein? Comme Matthieu 7 nous dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Dieu nous dit, hein? Il y aura beaucoup de religions de lèvres. Nous serons dit Seigneur, Seigneur. Mais comme Jésus dit à la fin de ce passage en Matthieu 7, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il y aura beaucoup de différence entre une religion de lèvres, Seigneur, Seigneur, et on continue à faire à sa tête. On continue à faire ce qu'on veut pendant la semaine. On continue à faire un peu ce qu'on veut. On a une religiosité qui nous plaît, qui ne nous dérange pas trop. On est prêt à abandonner certaines choses, mais c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on abandonne. Ça, ça vaut rien. Ça, c'est comme être content quand il fait beau. Mais être content quand quelqu'un qui nous rend mal content, ben là, c'est plus ça. Si on choisit ce qu'on est prêt à abandonner pour Dieu, c'est que c'est nous qui sommes le roi maintenant. Et si on dit, ok Dieu, je me rends et j'accepte ta liste de choses. C'est toi qui connais vraiment le bien et du mal. Et je me rends. C'est plus moi qui vais décider qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Je vais maintenant me dire, c'est toi maintenant le Seigneur. C'est toi qui me dis qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien et comment me conduire. C'est toi le Seigneur. Alors la Seigneurie, ce n'est pas une religion de lèvres qui va être acceptée. Mais c'est réellement agir selon qui il est. Et bien sûr qu'un chrétien n'est pas parfait. Un chrétien ne sera jamais parfait. Mais Dieu est un Dieu fidèle qui châtie celui qu'il reconnaît comme ses fils. Et justement, celui qui est son fils, il va du fond du cœur apprécier que Dieu l'aime et le châtie quand au besoin. Mais parce que Dieu va nous tendre donc à la sanctification par amour pour ce qui est bien et par haine de ce qui est mal. Alors, Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, à cause de cela, quand on accepte sa Seigneurie, ben, qu'est-ce qu'on fait, hein? Non seulement on se convertit un jour bien précis, même si on ne s'en rappelle pas. Moi, je ne me rappelle pas de quel jour je me suis converti. Mais je sais qu'il y avait un jour où j'ai compris. Allez, je suis perdu, je suis séparé de Dieu, je suis l'ennemi de Dieu, comme ma femme parlait de Paul. Et j'ai besoin d'une conversion, j'ai besoin de me convertir à Jésus. Moi, mes parents étaient déjà sauvés depuis longtemps. J'ai grandi depuis le jour de ma naissance, depuis tout ce temps-là, j'entendais l'évangile, mais moi, il fallait que je comprenne personnellement ma propre perdition. J'étais perdu, moi, j'étais ennemi de Dieu, moi, j'étais sous la puissance de Dieu, moi, sous la puissance du diable, moi. Et Dieu voulait me sauver, que je me convertisse à lui. Je me suis converti à un jour bien précis, et Jésus est devenu mon Seigneur et mon Sauveur ce jour-là. Et ensuite, Dieu veut qu'on déballe. Verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » La manière que c'est traduit, ça fait penser que oui, il faut travailler à son salut, parce que... Mais c'est pas exactement... c'est peut-être pas la meilleure manière de le traduire, dans ce sens que ça fait penser qu'on doit travailler à mériter notre salut. Non, c'est plutôt dans le sens de déballer. C'est comme quand on se fait donner un cadeau à Noël, il est tout emballé, et là il ne sert à rien, n'est-ce pas? Son emballage, il ne sert à rien. Il est caché, l'emballage est peut-être beau, mais si on le garde comme ça, ça ne va rien nous servir. On le déballe, on s'en sert. Si c'est un cadeau à maman, puis que c'est un outil de cuisine, bah, merveilleux, elle le déballe, elle commence à s'en servir. Si c'est... un outil pour papa, ben, ça ne va rien servir. Il le déballe, puis là, il peut s'en servir. Hein, si c'est quelque chose pour les jeunes, n'importe quoi, quelque chose de décoratif, ben, qu'on le déballe, qu'on s'en sert, ben, c'est ça, c'est la mise en application. Christ nous a sauvés pour servir. Il nous a sauvés pour un but. Éphésiens chapitre 2. Regardez Éphésiens chapitre 2, juste quelques pages de là. Éphésiens chapitre 2, verset 8. « Car c'est par la grâce... que vous êtes sauvés. » Donc il le dit, c'est pas travailler à votre salut au sens qu'il faut travailler pour mériter votre salut. Mais c'est dit travailler. C'est comme une sculpture. Si je vous donne un bout de bois pour le sculpter, là vous l'avez votre bout de bois. Maintenant, travaillez-y. Le salut, on l'a. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. On croit, on fait confiance à Dieu. Il en est comme il dit. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, et ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous sauve pour un but. On était esclaves de nos vices, esclaves de nos passions, esclaves de nos préférences tortueuses, esclaves de notre égoïsme, etc. Dieu nous sauve. Maintenant, pour qu'on puisse être esclaves de nos... Non, maintenant, pour commencer à servir, commencer à faire des bonnes œuvres, faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Aimer son prochain comme soi-même. Et le besoin le plus grand de notre voisin, c'est qu'il connaisse aussi Dieu. Si la faim, bien sûr, on ne va pas le regarder mourir de faim et lui donner l'évangile. On va lui donner ce qu'il a besoin pour ne pas mourir de faim. Mais... on va lui dire, le te pont, ton plus grand besoin, c'est que Jésus sauve ton âme, mon ami. Et donc, d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer les frères et sœurs en Jésus-Christ. Le point, c'est que Dieu nous a sauvés pour de bonnes œuvres. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, Philippiens chapitre 2, travaillez à votre salut. Allez, vous l'avez reçu, votre cadeau. Maintenant, travaillez-y. Déballez-le, servez-vous-en. Votre bloc de bois, vous l'avez reçu, mais sculptez-le maintenant. Travaillez-y, faites ça un beau image de Dieu. Là. Faites de quoi qui est agréable à sa vue. Donc, c'est le point. C'est de l'intérieur à l'extérieur. Dieu a tout pourvu, il a mis en nous le Saint-Esprit, mais il veut qu'on soit tendre vis-à-vis du Saint-Esprit pour obéir à ce qu'il nous commande dans selon la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il va se servir de la parole de Dieu. Il n'y a pas de nouvelle vision, il n'y a pas de nouvelle rêve, il n'y a pas de nouveau rêve. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. On doit l'écouter, on doit agir. Et là, il nous dit comment maintenant ? L'action, c'est la mise en œuvre par le croyant. Et Dieu a tout pourvu, l'intérieur, le vouloir et le faire. C'est Dieu qui pourvoit de l'intérieur. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire c'est Dieu qui pourvoit le vouloir et le faire au sens de quoi ? Au sens de... Nous, on va rester assis. On va rester assis et on veut juste attendre que Dieu nous bouge. Comme un pantin. Allez ! Il y a des fils. Il y a un fil sur mon bras. Et puis on attend que Dieu nous bouge pour... Hein, comme un pantin. Puis à part ça, s'il ne bouge pas, on reste là, parce que c'est Dieu qui pourvoit le vouloir le faire. C'est ça? Non, c'est pas ça. Dieu nous a créés à son image, avec une responsabilité. C'est plutôt comme un coach qui va diriger. Bon, ce soit la boxe, alors c'est pas le sport le plus... Mais c'est un sport dans ce sens-là, de coach, de guide, attention, tu vas reculer, tu vas avancer, etc. Et Dieu, il pourvoit le vouloir. Vous savez qu'il nous donne un cœur nouveau. Isaac, il m'a encouragé, il dit, papa, regarde, Dieu m'a donné un verset, il vous donnera un cœur nouveau. Et il a cru. Bien sûr, et Dieu lui a donné un cœur nouveau. Dieu donne un cœur nouveau à quiconque se convertit à lui. Un cœur nouveau. C'est lui qui produit le vouloir. Et le faire, la capacité de le faire, c'est Dieu qui le pourvoit. Il n'y a rien qui nous est par nous-mêmes. C'est Dieu qui pourvoit le vouloir et le faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de juste attendez que Dieu vous bouge. Si c'était attendez que Dieu vous bouge, ben, il n'y aurait plus besoin de dire au verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. On oublie ça. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Alors, point final. Plus besoin de rien dire, plus besoin de commander quoi que ce soit. C'est Dieu, vous êtes des robots. Dieu va vous programmer. Non, parce que là ensuite il continue. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alors on est responsable. On n'est pas comme des pantins qui devons attendre que Dieu nous bouge. Et puis, mais on est des personnes que Dieu, il nous a donné un nouveau cœur, une nouvelle direction, un nouveau désir. Il nous donne la capacité de pouvoir maintenant agir par le Saint-Esprit et par la force de la nouvelle nature qu'il nous donne. Eh bien, c'est à nous alors d'agir avec. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs. Dieu nous tient aux responsables pour maintenant agir. C'est pour ça qu'il dit déballez, travaillez à votre salut. Donc, qu'on ne prenne pas ce verset, Dieu vous donne le pouvoir et le faire, comme si c'était Dieu est souverain, puis l'homme n'est pas responsable de rien. C'est Dieu qui va choisir quelques-uns au ciel, puis il en choisit d'autres pour aller en enfer. Puis tout est déjà déterminé d'avance, alors pas besoin, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. J'en ai rencontré des gens comme ça, parce que peu importe ce qu'ils faisaient, ça n'allait à rien. Il n'y aura rien d'influence sur leurs enfants. Si Dieu les aura élus, ben il les aura élus, ils vont se sauver. Mais c'est surtout si Dieu ne les a pas élus, ils vont être perdus. Mais il n'y a rien que le papa ou la maman peut faire pour influencer. Quel genre de... Non, ça c'est pas selon la Bible. Dieu est souverain, oui. Mais Dieu est souverain et il a choisi de nous faire responsables. C'est Dieu qui nous a créés à son image avec une responsabilité et il nous tient, c'est pour ça qu'il nous tient redevables. C'est pour ça qu'il va juger avec raison ceux qui refusent de croire en lui. Parce que c'est eux qui refusent de croire, c'est eux qui préfèrent croire, mais préfèrent les ténèbres à la lumière. C'est eux qui tournent les choses à l'envers et qui condamnent Dieu comme étant méchant, qui appellent le mal bien et le bien mal. Et Dieu va tenir responsable, mais il veut aussi tenir responsable les croyants pour leur manière de servir ou non, leur fidélité, leur degré de fidélité. Alors c'est pour ça qu'il dit, il va au tribunal de Christ, pour les croyants, on va rendre compte pour notre fidélité. Et il y aura les récompenses ou non. la question de rentrer au ciel ne sera pas en jeu là. Rentrer au ciel ou non, ça dépend juste sur Jésus-Christ. Et si on l'accepte fondamentalement, ensuite la manière de le servir, la manière à quel degré est-ce qu'on a travaillé notre salut, eh bien, ça c'est ce que Dieu il va demander des comptes à cela. Donc quand il dit « c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire », c'est encouragement au sens que c'est de Dieu, par Dieu et pour Dieu qui sont toutes choses. On lui donne la gloire. C'est Dieu qui m'a donné un nouveau cœur. Alors maintenant, je peux choisir le bien. Maintenant, je peux, j'aime le bien. Et maintenant, je peux agir selon le bien. Parce qu'il m'a donné tout ce qu'il faut pour faire ce qui est bien. Alors oui, on reconnaît que c'est de Dieu, par Dieu et pour Dieu qui sont toutes choses. Et quand on le reconnaît, justement, c'est là qu'on agit volontairement à le reconnaître. C'est de Dieu, par Dieu et pour Dieu qui sont toutes choses. Romains 11. Ça ne contredit pas le fait qu'il y en aura beaucoup qui seront en enfer et jugés parce qu'eux auront refusé de croire en Dieu. Alors il y a vraiment de comprendre que Dieu est totalement souverain et l'homme est totalement responsable. Et les deux, on a de la misère à les comprendre ensemble. Mais Dieu est totalement souverain, c'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. C'est Dieu qui peut mettre les bâtons dans les roues et dire « Non, tu veux faire ça, mais je ne te laisse pas. » C'est Dieu aussi qui peut dire « Tiens, je te donne un nouveau cœur. Maintenant, tu as le vouloir et le faire. Maintenant, ton vouloir, maintenant, il est là parce que tu as un nouveau cœur. Maintenant, tu as une nouvelle capacité de faire en Jésus-Christ les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. » Et donc, l'action, la mise en œuvre, c'est de l'intérieur, c'est Dieu qui a tout pourvu et que c'est Dieu qui pousse de l'intérieur avec son vouloir et le faire. Et ça n'enlève pas la responsabilité maintenant d'agir volontairement, à se soumettre à ce plan-là de Dieu. Dieu veut qu'on agisse dans son plan. Et on accepte son plan pour nous. Maintenant, la manière, sans murmure ni hésitation. Donc, il dit au verset 14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et donc la manière, sans murmure ni hésitation, c'est par notre attitude, notre tendresse de cœur. Et je peux dire, c'est l'attitude qui vient mettre un peu... qui vient d'éteindre l'atmosphère. Quelqu'un peut faire tout ce qui est bien, cocher toutes les cases de ce qui doit être fait, et ruiner son témoignage. Parce que la manière qu'il l'aura fait, c'était dans la chair, c'était dans l'orgueil, c'était, etc. On l'a vu au chapitre 1, on peut prêcher l'évangile avec des motivations impures, des motivations charnelles. Certes, ça ne change pas la vérité qui est prêchée, mais ça laisse un mauvais goût. Dieu veut que notre attitude soit bonne. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. L'attitude. Dieu ne veut pas d'un zèle terrestre et charnel, un zèle, un grand zèle, mais c'est lourd. La manière, l'attitude. Vous savez, parfois on pense que les murmures, c'est pas grand-chose. Mais Israël, dans le désert, avec ses murmures, les murmures n'étaient qu'un symptôme de leur incrédulité. À chaque fois qu'il y avait des difficultés, « Oh, tu n'es pas bon, il n'y a pas d'eau, la soif, tu es chaud, la soif, voilà, qu'est-ce qu'on va manger ?» Et après, tu leur donnes la manne, après tant de temps, « Oh, la manne, c'est toujours la même chose !» Comme du pain au miel. « Oh, on va toujours trouver une manière à murmurer quand notre cœur est à murmurer et on n'apprécie pas. Mais la gratitude, elle est différente. La gratitude, on est reconnaissant même pour les petites choses. Murmure, gratitude. Incrédulité, la foi. On reconnaît ce que Dieu a fait pour nous. Et quand ils ont péri dans le désert parce qu'ils ont refusé d'entrer dans le pays promis, Dieu a dit, voilà 10 fois là. À chaque fois qu'il y a une difficulté, il murmure. Dieu compte. Dieu compte. Et c'est pour ça que Dieu, pour ceux d'entre nous qui connaissons le Seigneur, il veut qu'on fasse Tout. Oh là là, tout. Oh non, pas tout. Certaines choses, j'aimerais bien pouvoir murmurer. Mais il dit, faites toutes choses, sans murmure ni hésitation. Tout. Prendre la dernière place. Accepter de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal. Etc. Allez, vivre quelque part où ça ne nous intéresse pas de vivre. Peu importe ce que Dieu nous demande dans notre vie, sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Et Dieu veut qu'on le fasse avec joie. Parce que Dieu est bon. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Ah, c'est merveilleux. Il n'y a plus de raison de murmurer. Il n'y a plus de raison de murmurer. Parce que tout, il n'y a aucune exception qu'on perde toutes ces poules. On a tout perdu, nos poules, cette semaine-là. Un oslo est rentré là-dedans et a tout mangé. Bah, pas tout mangé, mais il a tout tué. Il a tout tué pour pouvoir revenir ensuite, plusieurs jours, manger une poule par jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait, mais il a tout tué. Ça ne change pas, Dieu est bon. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que je comprends pourquoi en ce moment c'était une bonne chose que tous les poules soient tuées? Non, je n'ai pas besoin de savoir. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a perdu tous nos poules, plus d'œufs. Plus d'œufs. Bah oui, mais des œufs au magasin. Bon, on va retourner au magasin. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Eh bien, ça, c'est une petite chose. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait deux chrétiennes qui avaient caché des juifs et qui se sont fait prendre et qui ont été mis dans un camp de concentration. Et là, quand ils ont vu que c'était infesté de poux, oh là là, bah, ça c'est tellement petit comparé à tout ce qui pouvait arriver, mais quand même, vivre dans une place infestée de poux. Et la sœur de l'une, c'est bien, merci. Merci. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais. Il nous dit de rendre grâce en toutes choses. Jusqu'à ce qu'ils découvrent plus tard que les Allemands, les gardes, les ont laissés tranquilles. Ils ne voulaient plus rentrer dans leur baraque parce que c'était infesté. Alors ils avaient réussi à rentrer une petite Bible, ils avaient pu avoir des réunions, faire connaître la parole de Dieu, et les Allemands les laissaient tranquilles parce que c'était infesté. Ah, là ils ont compris, parce que c'est bien pour les poux. Ah oui. C'est pour ça que Dieu, quand il dit de rendre grâce en toutes choses, puis faites tout sans murmure ni hésitation, c'est parce que Dieu, il y a une cause, il y a un fondement, il y a une valeur sûre à la chose. Il y a une fondation à ce commandement. La fondation, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Ah oui. Cette femme. Un jour, elle donnait des témoignages après ça, longtemps après la guerre, puis un jour, dans son audience, elle reconnaît un des gardes allemands. Par la grâce de Dieu, elle a dit oui. Dieu a eu pitié de moi et m'a sauvé. Dieu aussi désire le sauver. Lui, un bourreau de ce système-là, tué avec plaisir, vengeance. Eh bien, Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans les pires des circonstances, Dieu veut montrer sa bonté et désire sauver. Et quand on reconnaît sa bonté, que Dieu, il peut prendre tout le mal que quelqu'un fait, et pour quelqu'un qui met sa confiance en Dieu et qui aime Dieu, Dieu va tourner cette méchanceté en bien. Un des exemples les plus flagrants de David, c'est Joseph qui s'est fait haïr par ses frères. Ce n'était pas une bonne chose que le père avait une préférence pour un des fils ou d'autres, mais ce n'était pas Joseph qui en était coupable. Et ses frères l'ont haï. Ils l'ont vendu en fin de compte. Joseph, on le voit dans l'histoire, il n'a rien fait avec murmure ni hésitation. Il a continué de faire selon ce qui lui est demandé, avec joie et avec confiance, avec simplicité, avec humilité. Jamais avec murmure et hésitation. Savez-vous comment je peux dire ça? quand il était mis en charge de la prison dans laquelle il était jeté injustement,
au lieu de bouger, de dire, ah, c'est pas juste que je suis ici, moi j'ai rien fait,
ils ont menti à mon propos. Non. Il n'a pas appelé le mal bien et le bien mal, il n'a pas dit, ah, ils ont bien agi. Non, ils ont mal agi. Mais il n'en est pas devenu un malin. Et quand il y avait deux prisonniers qui étaient malheureux, il me dit, ah, mais vous êtes triste aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais pensez-vous que c'est normal d'être triste en prison? Ah oui, il arrête de dire, bah, ils sont tristes aujourd'hui, mais ça ne change pas de façon, c'est normal d'être. Non, vous lui dans sa prison, les gens ne vont pas être tristes. Mais oui, vous êtes triste aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a fait des rêves, on ne comprend pas c'est quoi. Mais juste le fait qu'ils remarquent qu'ils sont tristes, ça montre que lui-même ne boudait pas, puis qu'il ne trouve pas ça normal d'être malheureux. Donc on voit que Joseph était un homme. Et quand ensuite ses frères sont venus, quand il était mis gouverneur de l'Égypte, et que ses frères un jour sont venus pour s'agenouiller pour lui en tant que le gouverneur d'Égypte. Ah, il a compris. La famine les affecte aussi. Et Dieu va se servir de tout ça pour qu'ils puissent être sauvés. Ah, Dieu a fait tourner en bien le mal. Et il le dit dans Genèse 50. Joseph était... Pourquoi est-ce qu'il était tout au long de son état malheureux, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'il n'était pas malheureux? Parce qu'il savait, au fond de lui, il n'avait pas confiance à Dieu. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est saint. Et Dieu fait concourir au bien ceux qui aiment Dieu. Tout pour le bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés à son dessein. Alors c'est pour ça que Joseph, à la fin, là, il a compris comment et Dieu l'a fait tourner en bien. Mais même sans le comprendre, il a choisi de faire confiance à l'œuvre au principe. Et nous devons aussi, pour ceux d'entre nous qui connaissons le Seigneur Jésus, ça dit, faites toutes choses, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et les gens vont remarquer, quand on réagit à nos choses différentes, quand on réagit aux circonstances de vie difficiles différemment que ce monde, qui n'a pas d'autre but de vivre que d'essayer d'avoir autant qu'ils peuvent, puis de vivre pour ce qu'ils peuvent retirer de ce monde. Et dans leur perversité, ça donne à toutes les passions perverses et corrompues de ce monde, ben, nous allons briller si on fait ce qui est bien, si on endure les difficultés, si on choisit de servir, et tout cela sans murmure ni hésitation. On va pouvoir briller pour le Seigneur, avoir un témoignage de vie irréprochable. Pourquoi? Pour proclamer, portant la parole de vie. Les gens peuvent nous demander, mais pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu connais la joie même à travers les temps très difficiles? Ah! Portant la parole de vie. Tiens, ça c'est la source de tout ça, c'est la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu la mort, la victoire est gagnée et j'ai accepté d'être mis du côté de la victoire. Toi aussi, mon ami, tu peux aller du côté de la victoire. Il faut passer de la mort à la vie si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ pour votre sauveur. Eh bien, venez à lui aujourd'hui. Passez de la mort à la vie. Ce n'est pas flatteur. On ne peut pas se convertir sans s'humilier, sans avouer Dieu, je mériterai l'enfer. Et tu me dis qu'elle est vraiment terrible, puis j'accepte que ce que tu dis est vrai, et je ne veux pas y aller. Mais Dieu, je veux mettre ma confiance en toi, c'est toi qui as élevé Jésus comme Seigneur, lui qui a été jusqu'à la croix de la mort de la croix, acceptez-le comme votre sauveur. Et ensuite, joignez-vous à nous qui essayons d'apprendre à marcher, à déballer notre cadeau, de le mettre en valeur et de le faire sans murmure ni hésitation à travers les difficultés de la vie. Seigneur Dieu, travaille dans les cœurs, tu connais les cœurs, tu connais ceux qui sont perdus, tu connais ceux qui te connaissent et on te prie que tu puisses encourager chacun. Seigneur, pour les perdus, de vraiment venir à toi et pour ceux d'entre nous qui te connaissons, qu'on puisse vraiment faire tout sans murmure ni hésitation et être à ta gloire, vivre à ta gloire, déballer ce cadeau merveilleux que tu nous as donné de salut pour te servir. Seigneur, travaille dans chacun de nos cœurs selon le besoin de chacun. On te supplie au nom de Jésus. Amen.